Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bienvenue pour une nouvelle émission d'Histoire. C'est un plaisir de vous retrouver cette semaine où je vous propose de partir dans l'Antiquité pour évoquer la bataille d'Actium. Bataille navale d'Actium. L'une des plus grandes batailles navales qui se soit déroulée sur le continent européen, une bataille qui a eu lieu le 2 septembre de l'année 31 avant Jésus-Christ et qui voit s'opposer la flotte d'Octave à celle de Marc-Antoine. Une bataille essentielle pour le contrôle de l'Empire, d'une part, et pour la fin de la guerre civile qui touche la République romaine, et qui voit donc le triomphe d'Octave sur Marc-Antoine. Une bataille navale dont on peut retrouver quelques belles images dans un ouvrage récemment paru aux éditions Glénat, un ouvrage, une bande dessinée qui traite des grandes batailles navales qui est menée notamment par Jean-Yves Delitte. C'est toute une collection de bandes dessinées sur les grandes batailles navales. Alors, il y en a une récente sur Actium, une autre qui vient de paraître sur la bataille des Cardinaux. Nous sommes là au XVIIIe siècle, et ça voit s'affronter la France contre l'Angleterre. Une très belle série qui permet de mettre des images, de mettre des dessins sur ces bateaux, sur ces flottes, et de rentrer ainsi dans l'ambiance de ces batailles navales, ce qui permet de recapter un petit peu des sensations de ces batailles ô combien compliquées. Compliqué parce que le milieu aquatique est toujours difficile à maîtriser. Une bataille navale est toujours pleine d'incertitudes. Il ne s'agit pas uniquement d'avoir la meilleure flotte, ni d'avoir la meilleure tactique. Encore faut-il aussi que les éléments soient favorables. Une tempête, une houle un peu trop violente, un vent qui tourne, et c'est la bataille qui peut changer. Donc beaucoup plus que la bataille terrestre, la bataille navale contient une part d'incertitude qui la rend d'autant plus grandiose lorsque celle-ci permet à un jeune monarque, bientôt empereur, de l'emporter et ainsi de prendre le contrôle de l'Empire. Alors nous sommes le 2 septembre, en 31 avant Jésus-Christ, à la fin de la dernière guerre civile de la République romaine. Jules César vient d'être assassiné. Les deux personnes se partagent l'Empire, d'un côté son fils adoptif, Octave, et de l'autre Marc-Antoine, qui a été l'un des plus proches généraux, l'un des plus proches collaborateurs de Jules César. Marc-Antoine qui vit désormais avec Cléopâtre VII, qui a vécu aussi avec Jules César, et Cléopâtre VII qui a eu un fils de César, Césarion, ce qui conduit à une lutte de légitimité. En effet, Octave est le fils adoptif, alors que Césarion est le fils légitime. Une victoire de Marc-Antoine, et ça peut être ce fils légitime, ce fils biologique, qui monte sur le trône. Il s'agit donc à la fois de combattre un adversaire, Marc-Antoine, mais également de combattre la menace que peut faire peser pour Octave l'existence de Césarion. Et puis, on voit aussi dans cette bataille une position pour le contrôle de l'Empire, mais surtout pour le contrôle de la partie orientale de l'Empire romain. Depuis la ville de Rome, Rome donc a conquis l'Italie, certes, mais aussi l'Occident, la Gaule, l'Espagne, la partie de l'Illyrie, de ce que l'on appelle aujourd'hui les Balkans, et ensuite l'Orient avec la Grèce, avec l'Égypte, et avec ce qui correspond aujourd'hui au Levant, le Proche-Orient, ou la Syrie romaine. Et notamment, Marc-Antoine doit régulièrement combattre les Parthes, qui ont des velléités de chasser les Romains dans leur zone orientale. Marc-Antoine a fait le choix du contrôle de l'Orient, en s'installant notamment en Égypte, à Alexandrie. Il reprend ainsi l'héritage d'Alexandre. Il s'appuie sur Cléopâtre, une descendante de Ptolémée, donc général d'Alexandre, et il tente de contrôler la partie orientale de l'Empire romain, quand Octave, lui, contrôle la partie occidentale et notamment la ville de Rome. Et on voit là un élément qui est prépondérant dans toute l'histoire de l'Empire, qui est que celui qui contrôle Rome contrôle l'Empire. Une des erreurs majeures de Marc-Antoine est de ne pas avoir compris qu'en délaissant Rome, ce n'était pas uniquement la ville qui délaissait, mais c'était l'ensemble de l'Empire romain qui lui échappait, notamment parce qu'à Rome se trouve le Sénat, et que le Sénat est maître dans le pouvoir politique, et que le Sénat décide de celui qui dirige. Et donc en abandonnant le Sénat, il abandonne une partie importante du pouvoir et il se met en difficulté. Il y a donc une nécessité de contrôler Rome, ce qu'a très bien compris Octave, et contrôlant Rome, Octave espère ainsi s'en servir comme d'un levier pour prendre le contrôle de l'Orient. Remarquons que quelques années auparavant, toujours à l'époque de la guerre civile, lorsque Jules César affronte Néron, César contrôle Rome, il contrôle l'Italie, alors que pour Néron, cela lui a échappé et ça aboutit à la victoire finale de Jules César. Notons aussi la position géographique de la bataille d'Actium. Nous sommes en Grèce, dans le nord de la Grèce, au nord du Péloponnèse, dans ce qui est la région de Leucade, le proche de la région de Tarente. Donc nous sommes dans la partie orientale de l'Empire romain, en mer Ionienne, et dans ce qui s'appelle donc le golfe Ambracique. L'Italie est juste en face, mais nous sommes là à la frontière entre la zone orientale de l'Empire et la zone occidentale de l'Empire. L'Italie est en face, donc ça permet à Octave de transporter ses troupes, mais nous sommes bien en zone orientale. Donc de voir que cette bataille se situe à la frontière entre l'Orient et l'Occident de l'Empire romain est particulièrement intéressant d'un point de vue de la situation géographique et des rapports de force qu'il y a entre les deux camps pour le contrôle de l'Empire. Notons que un siècle plus tard, quand Dioclétien a officiellement partagé l'Empire en deux, avec deux Augustes et deux Césars, la frontière de l'Empire passe peu ou prou à proximité de la zone où s'est déroulée, la bataille d'Actium, où se sont déroulés les combats entre Octave et Auguste. Donc, on le voit, une zone qui est extrêmement importante pour l'Empire romain et dont l'importance a perduré tout au long de l'histoire de l'Empire. Si on regarde le plan de la bataille en tant que tel, il y a donc le golfe Ambracique, qui est un véritable golfe entre l'Épire et la Carnanie, et qui sort vers la mer Ionienne par un détroit, un goulot, où il y a notamment la ville d'Actium. Marc-Antoine est situé à l'intérieur, alors devant Actium, mais avec la côte dans le dos. Il a installé son camp sur les hauteurs, près de la côte, au sud d'Actium, et il y a ses bateaux, qui sont donc face à la mer Ionienne avec la côte dans le dos. Les troupes d'Octave, en revanche, elles ont la mer Ionienne dans le dos, l'Italie dans le dos, pourrait-on dire, et la côte d'Actium en face. Le camp d'Octave est situé de l'autre côté du détroit, au nord, et à proximité de la ville de Nicopolis, là où, après la victoire, il a établi un hôtel, l'hôtel de la victoire. Ce qui signifie donc, dans cette composition des forces, que la flotte de Marc-Antoine ne peut pas reculer et elle ne peut pas non plus s'en aller, fuir. Elle est coincée, puisqu'elle a face à elle les troupes d'Octave et derrière elle la côte. Donc elle se trouve dans une position un petit peu coincée, alors que les troupes d'Octave, elles, coincent justement les troupes de Marc-Antoine contre la côte et donc ont davantage de champ pour manœuvrer Cela est évidemment important lorsqu'il s'agit de mener la bataille. Alors voyons quels sont un petit peu l'état des positions et des forces en présence pour en comprendre les enjeux. Entre 35 et 33, Octave a mené une très grande campagne en Illyrie et en Dalmatie, afin de prendre le pouvoir, justement, et de s'assurer le contrôle de Rome. Pourquoi mener campagne en Illyrie et en Dalmatie? Eh bien, c'était une manière pour lui de s'assurer le contrôle de cette région, on pourrait dire c'est une zone tampon, entre l'Italie péninsulaire et la péninsule balkanique. Une zone essentielle à contrôler, parce que en contrôlant la Dalmatie et l'Illyrie, Octave protège l'Italie d'une invasion des troupes de Marc-Antoine et il opère une tête de pont en Orient. Donc une zone ô combien importante et de fait, cela se solde par des victoires, notamment en Pannonie ou en Dalmatie. Et comme il gagne, eh bien, il forge son image de chef victorieux, il forge son image de chef de guerre, de général victorieux, à qui la victoire sourit. Alors même que la victoire ne sourit pas à Marc-Antoine. Marc-Antoine, au contraire, est en train de faire la guerre contre les Parthes. Il essaye de chasser les Romains de l'Orient où ils sont situés. Or, les Parthes sont de redoutables combattants, de redoutables soldats. Ils mènent la vie dure contre Marc-Antoine. Nombreux d'ailleurs sont les Romains à s'être heurtés aux Parthes et à avoir été vaincus. Et Marc-Antoine connaît des défaites. Alors, on peut toujours dire que ce sont des défaites honorables ou des défaites encourageantes. Il n'empêche que ce sont des défaites. Et Octave maîtrise parfaitement ce qu'on appellerait aujourd'hui la communication politique. D'un côté, on a donc Octave victorieux, ce qui signifie que les dieux lui sont favorables, que la victoire lui sourit. Et de l'autre, on a Marc-Antoine qui, lui, connaissant les défaites, montre ainsi que les dieux se sont détournés de lui. Dans la communication politique que mène Octave, eh bien, il sait parfaitement orchestrer cette dichotomie entre Octave le victorieux et Marc-Antoine le défait. Ce qui fait que, avant même que la bataille ait lieu en 31, ces victoires entre 35 et 33 permettent de bâtir, de créer une image positive d'Octave. Octave en profite donc pour poursuivre son avancée et ainsi lui permettre de s'imposer comme le véritable dirigeant du monde occidental. Cela lui permet également de disposer de troupes terrestres qui sont importantes, d'autant qu'on se situe à la limite du domaine de Marc-Antoine, puisque lui contrôle la zone orientale. Et donc ainsi, Octave accumule des troupes, il accumule une armée qui lui sera ô combien importante. Marc-Antoine, au contraire, lui contrôle la Grèce méridionale, mais contrôlant cette Grèce méridionale, il reste tributaire du ravitaillement qui provient d'Égypte et de Syrie. L'Égypte étant le grenier à blé de l'Empire, avec la région de Carthage, et Alexandrie étant la quatrième ville de l'Empire, enfin la troisième ville à l'époque, puisqu'on a Rome, Carthage et Alexandrie. Un peu plus tard, on aura Constantinople, qui sera l'autre grande ville de l'Empire. Et la Syrie est une des régions les plus riches de l'Empire. Alors on voit bien un continuum pour Octave, qui n'est pas un continuum terrestre, mais au moins un continuum maritime, notamment entre l'Italie et les Balkans, alors que ce continuum est beaucoup plus compliqué à faire pour Antoine, puisqu'il est dépendant des liaisons maritimes entre l'Égypte, la Syrie et la Grèce. Donc une position inconfortable pour Antoine, qui ne peut pas bénéficier du même continuum et donc du même ravitaillement que ce que peut avoir Octave. Par conséquent, il songe probablement à passer à l'offensive et attaquer l'Italie, et il décide de le faire à la fin de l'hiver 32-31. Néanmoins, il se trouve toujours à Athènes, notamment avec Cléopâtre, qui est la reine d'Égypte, et il se trouve à Athènes avec ses troupes terrestres, alors que le gros de sa flotte est situé dans le golfe d'Ambracie. On voit donc une concentration des troupes d'Antoine à Athènes et en Grèce, et cette concentration des troupes incite ou encourage fortement Octave à intervenir en se disant que s'il peut vaincre Antoine là où il a concentré ses troupes, eh bien, il en sera définitivement débarrassé. Il n'empêche qu'il y a une supériorité numérique, il a à peu près 700 navires, il dispose également de réserves de provisions, ce qui lui permet de tenir un siège ou une forte longue bataille, et il cherche ainsi à attirer Octave dans les Balkans afin de l'isoler de l'Italie pour le vaincre plus facilement. Habile stratégie menée par Octave, par Antoine, pardon, que de faire venir Octave, de le couper donc de ses bases et ainsi de le battre sur un terrain qui lui est favorable. Et c'est là qu'intervient le général d'Octave, Agrippa, grand général, qui est à la tête de la flotte de Sicile et qui cherche à rompre le lien entre l'escadre principale d'Antoine, qui est basée dans le golfe d'Ambracie, et la Méditerranée orientale, notamment l'Égypte. Agrippa a une véritable vision géographique de la bataille. Il a très bien compris qu'il fallait couper l'Égypte et la Grèce, et pour cela, rompre la tête de pont et contrôler la ligne en Méditerranée. C'est ce qu'il fait donc avec sa flotte qui est partie depuis la Sicile, et il espère ainsi isoler Antoine en Grèce. Ce qu'il parvient, puisqu'il inflige un certain nombre de défaites successives au lieutenant d'Antoine, et il s'empare de Métone au sud, ce qui coupe le ravitaillement d'Antoine. Puis, il s'empare également de Corcyre au nord, ça nous renvoie d'ailleurs à de nombreuses batailles autour de Corcyre à l'époque de la guerre du Péloponnèse, et s'étant emparé de Corcyre, il permet le débarquement de l'armée d'Octave sur la côte épirote, assurant ainsi la liaison avec l'Italie. Voyez, ce que l'on voit là, c'est qu'il y a la bataille le 2 septembre, mais cette bataille n'est que l'aboutissement d'une très longue préparation, et notamment d'une préparation militaire et stratégique. Antoine pensait attirer Octave en Grèce et ainsi le combattre sur un domaine, un terrain qui est le sien. Agrippa a renversé la situation. Ce n'est plus Octave qui est isolé, mais c'est Antoine qui est isolé, puisqu'il n'a plus accès à l'Égypte et à la Syrie, et que Octave, ayant débarqué en Corcyre, lui assure la liaison avec l'Italie. Donc avant que la bataille ait lieu, la situation est plutôt favorable à Octave. Maintenant, on sait bien qu'une bataille est toujours quelque chose qui se vaut par elle-même. Il n'empêche que Antoine a été surpris, il n'a pas réagi lorsque l'armée d'Octave a atteint le golfe d'Ambracie. Il est basé à Patras, il se porte au devant de l'armée adverse pour lui interdire de franchir le golfe, notamment le détroit, de passer devant Actium et d'atteindre le golfe. Et Agrippa, en revanche, poursuit sa tactique navale en harcelant Antoine afin de l'isoler de ses arrières, et donc la flotte de celui-ci est bloquée dans le golfe d'Ambracie. Ce que je vous expliquais en début de cette émission, Agrippa est parvenu à bloquer la flotte d'Antoine, et étant bloquée dans le golfe d'Ambracie, elle ne peut plus recevoir de renforts, ce qui est évidemment positif pour lui. Ensuite, peu de temps après, le golfe de Corinthe tombe aux mains d'Agrippa, ce qui fragilise encore plus la position d'Antoine. Ce dernier cherche alors à engager une bataille terrestre contre Octave, mais cela n'aboutit pas. Il y a un début de défection, c'est toujours très dangereux parce que plusieurs officiers de l'armée d'Antoine sentent bien que le vent est en train de tourner, donc il y a des défections, des gens qui veulent être dans le camp du vainqueur. Les défections, évidemment, portent toujours un fort coup au moral. Et finalement, Antoine essaye de resserrer son armée, de desserrer l'entrainte navale autour de ses positions, mais Antoine est dans une situation difficile parce qu'il est enfermé dans le golfe d'Ambracie et soumis à un blocus maritime. Grâce au génie tactique d'Agrippa, Antoine a été enfermé, il est bloqué, il est coupé de ses forces, coupé de ses renforts et isolé, et donc sous la coupe de ses adversaires. C'était une très belle manœuvre menée par Agrippa et par Octave qui permet donc de contrôler et de tenir Antoine. Au début du mois d'août, Agrippa fit sa jonction avec Octave, et ainsi les deux armées, l'armée navale et l'armée terrestre, sont regroupées pour le combat final. Un combat final qui s'engage avec une armée particulière pour les deux hommes. L'armée d'Antoine est composée d'abord de forces terrestres, 19 légions, nous dit Plutarque, donc environ 75 000 hommes, auxquels s'ajoutent 12 000 cavaliers, et puis également des troupes légères, des vélites, qui ont été fournies par les alliés d'Antoine. Et puis, il y a un certain nombre de soldes, de clients, qui se sont adjoints à Antoine, des pontiques, des maures notamment, ce qui fait une armée assez hétéroclite, et il dispose d'une flotte d'environ 230 navires, dont 60 ont d'ailleurs été fournis par Cléopâtre. Alors pour Octave, lui aussi dispose d'une armée assez conséquente, il a à peu près 400 navires qui sont dirigés par Agrippa, des navires relativement légers. Il dispose également de 8 légions, soit 40 000 hommes, qui ont été embarqués sur les navires. Et sur Terre, Octave dispose d'environ 16 légions, donc 80 000 hommes, ainsi que 12 000 cavaliers. On a donc une armée qui est plus importante côté Octave et qui a en plus l'avantage d'être beaucoup plus homogène. Alors que celle d'Antoine est composée de troupes un peu disparates, celle d'Octave est beaucoup plus homogène. Et elle a également aguerri, puisqu'elle a participé à la campagne d'Illyrie, donc elle sait faire la guerre, elle a déjà combattu ensemble. Donc on voit bien qu'avant que la bataille ne s'enclenche, tant par son positionnement géographique, où il s'est laissé enfermer, que par son infériorité militaire, eh bien, la balance pèse en faveur d'Octave et en défaveur d'Antoine. La bataille proprement dite commence le matin du 2 septembre 31. Il y a eu plusieurs jours de tempêtes, ça arrive en Méditerranée, des tempêtes assez violentes, donc ils ne sont pas propices à la guerre maritime. Et au moment où se dégage une accalmie, Antoine en profite pour tenter une sortie en ordre de bataille. Octave l'attend, il voit la sortie et il tente donc de contrôler cette sortie. On est d'abord dans une bataille terrestre. Il y a Antoine qui dirige l'aile droite, et c'est là que a lieu le choc décisif, et au centre, les généraux d'Antoine. Octave a confié le commandement de sa flotte à Agrippa, qui lui commande sur la gauche. Il a donc Antoine en face de lui, et à sa droite, il y a Marcus Lurius. Les crocs de la flotte sont, eux, disposés aux ailes. La bataille terrestre s'arrête assez rapidement, la bataille navale se poursuit, elle dure plusieurs heures. Au début, chaque camp s'observe sans faire grand-chose, et puis vers midi, alors qu'ils étaient sortis le matin, la flotte d'Antoine se met en mouvement, plusieurs navires tentent d'encercler le vaisseau amiral d'Antoine, et Agrippa dégarnit la deuxième ligne afin d'effectuer une manœuvre d'enroulement sur la gauche, ce qui force la marine d'Antoine à étendre sa ligne et à prendre le large, mais elle est ainsi coupée du centre de l'action. Octave procède lui de façon symétrique en enroulant l'aile gauche de son adversaire, donc lui il attaque à droite pour lui, ce qui fait que le centre de la mêlée se retrouve dégarni. Cléopâtre a donc la possibilité de s'engouffrer pour s'enfuir vers Leucade, ce qu'elle fait vers 3 heures de l'après-midi. Avec la fuite de Cléopâtre, Antoine se retrouve seul. Il tente donc de se dégager de la mêlée et de la suivre, mais il a quitté son navire amiral pour s'engager sur un bateau beaucoup moins gros. Le plan, cela aboutit à une défaite d'Antoine. Le bateau est pris. À peu près 5000 hommes ont été tués selon les données de Plutarque. Malgré tout, Antoine n'a pas été capturé. Ça, c'est plutôt une bonne chose pour lui. La bataille a fait rage une bonne partie de l'après-midi. Le soir, Octave a maintenu son blocus, mais Antoine a fui. Et Octave profite de la fuite pour capitaliser là-dessus en se présentant comme le vainqueur parce qu'Antoine a fui et parce qu'il a obtenu donc la reddition de la flotte, ainsi que de l'armée terrestre. Donc, une victoire effective pour Octave, l'armée terrestre s'est rendue, une grande partie de la flotte s'est rendue. Taï, Antoine et Cléopâtre débarquent sur la côte nord-africaine, entre l'Égypte et la Cyrénaïque. Il y a quatre légions qui sont présentes pour les accueillir, mais elles font rapidement défection. Antoine est dans un profond désarroi, il tente de se suicider, mais finalement il ne le fait pas. Cléopâtre organise la défense de l'Égypte, mais leurs plans sont déjoués. L'ensemble de leurs alliés se rallient à Octave. Antoine s'est retiré d'abord dans l'île de Pharos. Il rejoint Cléopâtre pour revenir à Alexandrie. Personne, ni Antoine ni Cléopâtre, ne lutte véritablement contre Octave. Ils ont compris que celui-ci avait gagné. Et au moment, donc le 1er août 30, Antoine est persuadé que Cléopâtre a mis fin à ses jours et l'a trahi. Donc il se suicide, à la fois par désespoir après la mort de Cléopâtre et aussi pour ne pas laisser la victoire à Octave. Octave entre dans la Alexandrie. Cléopâtre ne s'est pas suicidée. Elle est donc en surveillance, en résidence surveillée. Et elle se suicide un peu plus tard en se faisant piquer par un basilic, ces célèbres serpents au venin extrêmement dangereux. Voilà donc Octave, maître du monde, ayant vaincu à la fois Antoine et Cléopâtre. Cette bataille d'Actium a été un véritable tournant, même si on voit bien que la bataille est sur une journée, mais elle a été préparée par une bataille de plusieurs mois en amont et par une opération qui s'est poursuivie en aval. Celle aboutit néanmoins à une bataille magistrale. Octave n'est plus Octave, il est Auguste, et avec lui naît l'Empire romain.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There's stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like, worry the police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.